Chapitre 56. Jonah traverse la vaste esplanade goudronnée et entend les grilles de la clôture électrique se refermer derrière lui. Il poursuit dans l'ombre du mur Jonas de l'établissement pénitentiaire, s'arrête à 10 mètres du poste de garde et tente une dernière fois de joindre Carlos. Une voix préenregistrée annonce que le directeur de la police est occupé et ne sera pas joignable de la journée. Quand il se fait enregistrer, c'est comme si le temps lui-même opposait une résistance. Ses mains glissent la montre-bracelet, le portefeuille, les clés de voiture et le téléphone dans le bac en plastique bleu avec lenteur. Un gardien aux doigts tachés de nicotine compte son argent et lui fait un reçu. Jonas se déshabille et passe tout nu le portique de détection. Au niveau de ses côtes, des hématomes énormes se fondent les uns dans les autres, tels des nuages orageux, et la plaie causée par la hache a tellement enflé que les fils de suture noire pointent en tous sens. « On dirait que tu t'es bien amusé pendant ta perme », plaisante le gardien. Jonas s'assied sur le banc usé et enfile les vêtements ternes et les chaussures de sport de la prison. « Je vois ici que tu seras placé en isolement », annonce le gardien. « Pourquoi ? Je n'ai pas demandé à être isolé », dit Jonas. Et il prend le sac en tissu gris contenant des draps et des affaires de toilette. Un autre gardien, au visage ruisselant de transpiration, l'accompagne jusqu'à sa nouvelle section. Au sous-sol, ils prennent à droite vers le sas du carrefour, attendent le bourdonnement de la serrure, puis s'engagent dans le tunnel qui mène au quartier d'isolement. Le couloir souterrain est vide et sent le béton humide. La seule chose qui rompt le silence est la communication radio du gardien avec le bâtiment G. Jonas songe qu'il ferait mieux de cesser de se creuser la tête au sujet de l'assassin vu qu'il sera désormais coupé du monde. Il n'est pas associé à l'enquête préliminaire. Il n'est plus policier. Arrivé dans le quartier d'isolement, il est de nouveau enregistré. On lui lit le règlement, puis on le conduit à travers un corridor silencieux à sa nouvelle cellule, le petit espace qu'il occupera 24 heures sur 24 sans aucun contact avec les autres détenus. Quand la porte de la cellule claque derrière lui, il approche de la petite fenêtre pourvue de solides barreaux et fixe le mur jaune dehors. « Olen vesini tan talin », se dit-il à lui-même, et il pose le sac sur le lit. Il pense à ce qui pourrait bien être des oreilles de lapin attachées autour de la tête de l'assassin, comme des sortes de trophées ou des symboles fétichistes. Peut-être que la capture et l'abattage des bêtes étaient une sorte de préparation rituelle à la tuerie. Il a tué William Fock et il a planifié de tuer Absalon Rajen, pense Jonas. Il ramasse 2 minuscules cailloux par terre et les pose sur le mince appui de la fenêtre. 2 victimes. Il se penche pour les observer de plus près. La pointe d'une des petites pierres est formée de quartz jaune pâle, tandis que la surface de l'autre est lisse, comme une petite écaille de poisson. Il réfléchit à la voix d'enfant enregistrée et à la comptine sur les lapins, qui les uns après les autres tombent en enfer. 10 petits lapins. Jonas regarde sous le lit et ramasse 8 autres petits fragments de pierre qu'il aligne sur le bord de la fenêtre avec les 2 premiers. L'assassin pourchasse 10 lapins, et il a l'intention de tous les tuer. Le temps a du mal à pénétrer dans la cellule d'isolement. Il n'arrive pas à atteindre le lit étroit, pas plus que le lavabo, les toilettes, l'étagère, le petit bureau ou la porte verrouillée. Celui qui se trouve en prison meurt imperceptiblement à petit feu. Jonas se tient immobile et regarde la lumière changer au-dessus de l'alignement des minuscules pierres. Les ombres deviennent plus longues et avancent comme les aiguilles d'une montre. Chaque petit caillou est un cadran solaire. La CEPO avait cru qu'il chassait des terroristes. Un terroriste, ça aurait été beaucoup plus simple qu'un soldat d'élite qui a pété les plombs. Un tueur à la chaîne. Qu'un terroriste aguerri ait laissé un témoin oculaire reste un mystère. Mais pour un tueur à la chaîne, en revanche, il est important de ne pas tuer les mauvaises personnes. Il peut avoir une motivation religieuse ou politique, exactement comme un terroriste. La grande différence est qu'il n'obéit qu'à lui-même. C'est pour ça qu'il est si imprévisible. Jonah passe la main dans ses cheveux ébouriffés. La bordure d'acier chromé autour de la fenêtre percée dans la porte est parsemée de marques de doigts. L'interrupteur est très sale et le plafond est parsemé de vieux sachets de tabac à sucer. Que la police chasse un tueur en série, un rampage killer ou un tueur à la chaîne, a en fait très peu d'importance. Ce qui compte, ce sont les motivations et les modes opératoires qui forment les mailles d'un même filet. Une certaine histoire personnelle pousse une personne dans une certaine direction qui détermine un certain modus operandi. La notion de tueur à la chaîne est très discutée. Le FBI l'a réduite à une personne qui commet deux ou plusieurs meurtres dans un laps de temps très court sans période de refroidissement, c'est-à-dire une phase calme entre deux meurtres. Mais les différentes interprétations recouvrent des schémas bien plus vastes et plus complexes. Aucun criminel ne pourra correspondre strictement à toutes ces définitions, mais avec les connaissances nécessaires, son profil sera plus facile à cerner. Un tueur de masse commet son crime en un seul lieu, tandis que le tueur à la chaîne se déplace. Un tueur en série sexualise souvent l'acte de tuer, tandis que le tueur à la chaîne le rationalise. Ce dernier n'observe pas de pause sentimentale et le laps de temps entre deux meurtres ne dépasse jamais 7 jours. Jonah fixe les petits cailloux sur le bord de la fenêtre. 10 petits lapins. Le criminel auquel la police a affaire porte en lui une colère qui, à un moment donné, le fait basculer du mauvais côté et commencer à tuer ceux qu'il tient pour responsables. Soit il sélectionne des victimes bien déterminées, soit il vise un groupe spécifique et il tue le plus grand nombre de personnes possible au sein de ce groupe. Ce qui tout d'abord apparaît comme un hasard à la police se révèle souvent être exactement le contraire. Jonah observe les pierres, puis fait le tour de la cellule d'un pas impatient, avance jusqu'à la porte et retourne à la fenêtre. 8 pas au total. Si ce criminel est un tueur qui sait où il va, s'il correspond à la catégorie du tueur à la chaîne, il y a une chose qui ne colle absolument pas. Ce qui s'est passé manque de logique. Ils ont définitivement affaire à un tueur intelligent. Il découpe la porte en verre de William Fock avec une scie à diamant pour éviter que l'alarme se déclenche. Il sait où sont situées les caméras et il ne laisse aucune trace. Et le compte à rebours de la comptine des lapins indique qu'il a déjà décidé quelles personnes vont mourir. Il a planifié 10 meurtres et il commence par le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ? C'est là que le raisonnement ne tient plus. Ça ne colle pas. L'auteur des faits devait forcément se douter que la police allait déployer d'énormes ressources humaines pour le retrouver. Il devait comprendre que son plan serait infiniment plus difficile à réaliser avec cette entrée en matière. Le tueur à la chaîne a commencé par le ministre, son Jonah, et s'apprêtait à s'attaquer ensuite à un professeur de Skövde. Le ministre des Affaires étrangères et le professeur. Jonah touche doucement les 2 premiers cailloux, puis pose le doigt sur le 3e, et trouve soudain la réponse à l'énigme. « L'enterrement, » chuchote-t-il, et il s'avance vers la porte pour tambouriner. C'est pour ça qu'il a tué le ministre en premier. Un de ceux qui figurent sur la liste du tueur est une cible plus difficile à atteindre que William Fock. L'enterrement est un piège. Le tueur sait qu'il faut des funérailles de ce niveau pour faire sortir la victime suivante. « S'il vous plaît, venez !» crie Jonah en cognant sur la porte en acier. « S'il vous plaît !» Le Judas s'assombrit et Jonah se déplace. Le petit volet rectangulaire s'ouvre et il voit le visage du gardien barbu à travers l'épaisse vitre. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de passer un coup de fil, » dit Jonah. « Tu es à l'isolement, ce qui signifie... »« Je sais, » l'interrompt Jonah, « mais je ne peux pas rester ici. Je dois retourner au bâtiment D. Je n'ai pas demandé l'isolement. » « Le conseil d'établissement estime que tu as besoin de protection, » De protection, pourquoi ?
Ça ne me regarde pas, dit l'homme, et il baisse la voix. Mais Marco est mort. Je suis désolé, j'ai compris que vous étiez amis.
Comment a-t-il ?
Juna se tait et pense à Marco qui a endossé la responsabilité de la bagarre dans la cour pour que Juna ne soit pas privée de sa permission. La dernière image qu'il a eue de son ami finlandais était le moment où les gardiens le mettaient KO avant de le menotter.
La Bredrascapette ? Demande Juna.
Une enquête est en cours.
Juna fait un pas en avant, mais s'arrête et lève les mains en voyant la crainte sur le visage du gardien.
Écoute-moi, il est extrêmement important que je puisse passer ce coup de fil tout de suite.
La mise en isolement est réexaminée tous les 10 jours. Tu sais que j'ai le droit d'appeler mon avocat à... Le gardien claque le volet et pousse le verrou. Juna fonce sur la porte et frappe dans le judas avec la paume de la main juste au moment où il devient plus sombre. Il entend un petit choc de l'autre côté et comprend que le barbu s'est cogné au mur derrière lui en reculant.
« Il y aura d'autres morts !» crie Juna en frappant sur la porte. « Tu ne peux pas faire ça, il faut absolument que je passe un coup de fil !»
Il recule, prend son élan et donne un violent coup de pied dans la porte. Il recommence et voit une fine poudre de béton tomber de la tache des gonds. Des deux mains, il prend la chaise par le dossier et la balance de toutes ses forces contre la fenêtre. Un des pieds se brise et tombe sur le bureau. Il frappe de nouveau, envoie valser la chaise et s'assied sur le lit, le visage dans les mains.